Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en feu pour Jésus ce matin? Je croyais qu'on était dans une église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en feu pour Jésus? Si je veux entendre des gens qui crient, je vais au stade, quoi, c'est ça. Ce matin, je vais partager quelque chose de vraiment extrêmement simple avec vous. Et on va prendre du temps pour prier ensemble. Et je crois que la prière la plus puissante, en tout cas le ministère le plus puissant, c'est le ministère que le Saint-Esprit opère auprès de nous pour nous transformer, nous changer, nous façonner. J'ai intitulé la pensée ce matin et elle est vraiment venue fort dans mon cœur. On est dans cette série En Mouvement et le titre du message ce matin, c'est Être en mouvement avec le vrai Dieu. Pourquoi être en mouvement avec le vrai Dieu? Parce que je crois souvent qu'on est en mouvement avec tout sauf le vrai Dieu. On est en mouvement avec une image qu'on a de Dieu, avec ce qu'on pense que Dieu est, avec ce qu'on pense que Dieu aime. Mais Dieu est Dieu. Dans sa nature, il est tout puissant, vivant. Il ne se comprend que par révélation. Et il a engendré des fils et des filles. La Bible dit dans le livre de la Genèse que lorsque Dieu t'a créé et il m'a créé, la pensée qui est venue dans l'esprit de Dieu, c'est faisons l'homme à notre image. La pensée que Dieu a eue lorsqu'il a conçu qui nous sommes, c'est qu'il s'est dit, je vais leur donner la vie, je vais leur donner l'esprit, je vais leur donner tout ce que je peux leur donner, mais tout ça va être connecté à qui je suis. En d'autres mots, les caractéristiques que Dieu a voulu libérer dans ta vie, ce sont les caractéristiques de Dieu lui-même. Dis à la personne à côté de toi, tu ne sais pas qui tu es. A suscité sur cette terre et mon point ce matin n'est pas de parler de faire toute une histoire de, comme Jésus a dit les disciples avec lui, qui l'ont rencontré sur le chemin d'Emmaüs, il leur a expliqué la parole depuis le début jusqu'au prophète. Alors j'espère qu'il vous faudra un peu moins pour être convaincu parce que sinon le message va être très 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 long, mais on va pas commencer par Moïse, mais juste on doit comprendre la nature de ce monde. Nous sommes des êtres spirituels dans un corps. Nous ne sommes pas un corps avec un esprit. Nous sommes un esprit à qui Dieu a donné un corps. C'est important de comprendre ça parce que ça change tout. Je suis un esprit. Lorsque Dieu t'a créé en Genèse chapitre 1er, on en a parlé tout à l'heure, Dieu a dit faisons l'homme à notre image et il a créé un esprit. Et c'est dans Genèse chapitre 2 qu'il nous a donné un corps. Mais dans Genèse chapitre 1er, l'homme a existé. En fait, dans Genèse chapitre 1, Dieu a créé tous les êtres humains. Toi, tu y étais déjà là-bas. Dieu a créé notre esprit et on est à l'image de Dieu. Et on a besoin de comprendre que tout est spirituel. Si tu ne comprends pas que tout est spirituel, tu passes ta vie à subir les circonstances. Comment se fait-il qu'il y a tant de croyants? Comment se fait-il que moi-même, si souvent, ma vie n'est pas en fonction de ce que Dieu dit, mais en fonction des circonstances auxquelles je fais face? Pourquoi? Parce que j'ai oublié que je suis un esprit dans un corps. Je pense avec mon corps. Mon corps est limité. Mon corps est fini. Mon corps a une enveloppe. Mon corps a les capacités qu'il a. Nous avons tous des capacités différentes. Il y en a des musclés, des pas musclés, des petits, des grands, qu'importe. Mais ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que si nous nous mesurons à la dimension de notre corps, nous sommes remplis de limites. Mais nous ne sommes pas un corps seulement. Nous sommes un esprit à qui Dieu a donné un corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux vivre sur cette terre, non pas avec les limitations physiques, mais en m'enracinant dans la réalité spirituelle. La Bible dit que c'est par la foi que nous croyons que le monde a été façonné par la parole de Dieu. Le monde, ce que tu touches, a pris son existence dans la parole de Dieu. Le monde physique n'est pas physique en réalité. Le monde physique est la conséquence du monde spirituel. Dans Romains au chapitre 7 ou 8, l'apôtre Paul nous dit que nous comprenons que les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Ça signifie quoi? Ça signifie que si tu comprends l'invisible, tu vas pouvoir vivre ta vie sur cette terre, non pas avec les limitations passagères, mais dans la réalité éternelle. L'apôtre Paul nous dit que ce qui est vraiment, 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 vraiment important, ce n'est pas la chaise sur laquelle tu es assis, c'est la main de Dieu qui te soutient. Est-ce que tu as plus confiance dans la chaise ou dans la main de Dieu qui te soutient? On va faire un test. suis très sérieux. On a plus, frères et sœurs, je prie par la puissance de son esprit qu'il puisse venir nous secouer ce matin. Qu'on puisse être en marche avec le vrai Dieu. Ce n'est pas normal que nous soyons la tête sous l'eau tout le temps et que de temps en temps, éventuellement, on respire. Je suis créé pour respirer, pas pour avoir la tête sous l'eau. Je ne suis pas créé pour passer ma vie à faire des requêtes de délivrance devant Dieu. Pourquoi ? Parce que le Dieu de la délivrance marche avec moi. Si tu passes ton temps à demander la délivrance, c'est que tu t'es éloigné du Dieu de la délivrance. Parce que la Bible enseigne, et lisez les psaumes si vous ne croyez pas, la Bible enseigne que lorsque Dieu se présente, même les montagnes fuient devant lui. Les océans se coupent. Pourquoi les océans se coupent en deux ? Parce que Dieu est redoutable. Et toi, si tu arrives avec... vous savez, tu peux arriver devant le diable et lui dire au nom de Jésus. D'ailleurs, il y a des gars qui ont fait ça dans la Bible. La Bible dit qu'il y a 7 fils de Séva qui ont vu un homme possédé et ils ont dit, nous, on va aller le délivrer. On a un peu compris 2-3 trucs. Au nom de Jésus, que Paul prêche. Sors de cet homme. Vous savez ce que les démons ont dit ? On connaît Jésus. On sait qui est Paul, mais toi, qui es-tu ? Vous savez ce qui s'est passé ? Il a pris une rouste. Vous comprenez le mot rouste ? Dans le sud de la France, on utilise ça. Dis à la personne à côté de toi, est-ce que toi aussi tu prends des roustes ? Parce que nous ne sommes pas appelés à vivre comme ça. Frères et sœurs, on n'est pas appelés à vivre comme ça. Dans le monde spirituel, chaque enfant de Dieu qui est sauvé a un nom et une autorité. On a été créé depuis la fondation du monde et Dieu nous a tout donné. Dieu marche avec nous. Ce n'est pas normal qu'il y ait toutes sortes de choses que l'ennemi place sur nos routes et qui nous limitent. Le problème souvent, c'est qu'on est tellement limité par notre corps, par le monde physique, qu'on essaye de tirer Dieu dans notre réalité au lieu de nous aller dans sa réalité. Tu demandes à Dieu de bénir ta vie alors que tu devrais apprendre à placer ta vie en lui. Et tu es béni. Il y a quelqu'un ? Vous savez, je crois qu'il est très important pour nous d'arriver à un moment donné dans notre vie. Je crois qu'on est dans cette saison, vraiment on est dans cette saison où il doit y avoir un cri qui sort de nous qui nous dit « Je veux le vrai Dieu dans ma vie ». Je veux pas la gentille église, la bonne petite louange. Vous savez, la louange, c'est bon. La louange, c'est bon. Vous savez quand c'est que c'est bon, la louange ? La louange, c'est bon quand Jéricho tombe. Si la louange n'a pas fait tomber Jéricho, c'est que tu as fait un slow avec toi-même. Tu veux faire un slow avec toi-même, vous savez, comme ça. Oh, je suis béni. Oh, c'était bon, la louange, ce matin. Rien n'a changé dans ma vie, gloire à Dieu. Les murailles sont toujours là, l'ennemi est encore plus fort, mais... Oh. Et comme tu as eu un contact qu'avec ton corps, tu es encore plus déprimé après. Parce que tu es rempli d'espoirs qui sont déçus. Tout ce qu'on fait, on veut la louange qui te fait tomber les murailles. On veut la parole qui nous équipe. On veut. Moi, je ne veux pas prier, frères et sœurs. J'en ai assez de prier. On peut prier. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, ne soyez pas comme les païens qui prient et qui pensent qu'à force de parole, ils vont convaincre Dieu. Des fois, je regarde ma vie et je vois le volume de prière et je me dis, Seigneur, comment ça se fait qu'avec toute la prière, il y ait si peu de résultats ? Si tu ne pries pas, c'est un problème. Mais je crois qu'en France, beaucoup d'églises prient. On est en début d'année, la majorité des églises en début d'année ont jeûné. Non ? Alors, si toutes les églises prient, si toutes les églises jeûnent, comment ça se fait que l'évangile ne perce pas notre pays ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Dieu a perdu la main ? Est-ce que la parole est un mensonge ? Est-ce que c'est nous qui ne comprenons pas les choses ? Ou alors, et c'est ce que je vais vous proposer ce matin, est-ce que l'ennemi ne nous tient pas en laisse peut-être ? Dis à la personne à côté de toi, il est temps d'enlever la laisse. Je déclare dans ce lieu que ce n'est plus l'ennemi qui va fixer le territoire que nous allons conquérir. Nous n'allons pas conquérir en fonction de ce qu'il nous laissera faire, mais en fonction de ce que Dieu nous dit. Reçois-le pour ta vie ce matin. Reçois-le pour ta vie ce matin. On va va parler de deux choses ce matin très simples. Première des choses, c'est stop à la vie chrétienne démoniaque. Stop. Je ne suis pas chrétien pour que l'ennemi domine encore ma vie. J'étais non-chrétien et il dominait ma vie. Ce n'est pas pour devenir chrétien et qu'il continue à la dominer. Vous êtes d'accord avec ça? On est appelé à régner avec Christ. La Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu n'es pas assis dans l'église là. Là, tu n'es pas assis dans l'église, je t'assure. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais si tu ne réalises pas que tout s'enracine dans le spirituel, tu crois que tu es assis à l'église. Alors que tu es assis avec Christ. Mais si tu sais que tu es assis avec Christ, tu te comportes comme quelqu'un qui est assis sur un trône. Alors que si tu crois que tu es assis dans l'église sur des chaises en plastique qui bougent un peu, hein, bouge aussi vos chaises comme ça là. Tu crois des fois les pieds vont faire. C'est pour tester votre foi, frères et sœurs. Mais ça change tout. Ta perception change tout. Si tu sais ta position, tout change. Si tu sais que le roi des rois marche avec toi, tout change. Est-ce que tu sais qu'il y a des anges qui sont à côté de toi? On était avec des frères et sœurs samedi dernier, on parlait du monde spirituel et je leur disais, chacun d'entre nous, on a au moins un ange avec nous, au moins un. Les plus pauvres, ils en ont un. Mais en fonction de ce que Dieu t'appelle à faire, tu es équipé pour ça. Peut-être qu'il y en a 5, 10, 15, 20, 100, 1000 avec toi. Et nous, on est assis dans l'église et ils sont assis à côté de nous, ils attendent. Et je crois que des fois, les anges disent, mais ils font quoi? Mais ils font quoi? Parce que nous sommes équipés, le Saint-Esprit est en nous, pourquoi? Pour qu'on puisse libérer sa puissance partout où nous sommes. Si tu as le Saint-Esprit en toi, donc tu as accès au don de l'Esprit, non? Si tu as accès au don de l'Esprit, la Bible dit que l'Esprit les donne comme il veut, ça c'est pas toi. Mais par contre, toi tu peux aspirer au don spirituel. Et si la Bible dit que l'Esprit les donne comme il veut, ça veut dire qu'on en a au moins tous un. Alors lequel tu as? Parole de révélation, parole de sagesse ou de connaissance, don de miracle, don de foi, don de guérison, discernement des esprits, lequel tu as? Parce que tu en as un. Mais l'ennemi ne veut pas que tu le saches. L'ennemi fait tout pour t'empêcher de le savoir. Tous les gens dans ce monde qui ont compris que tout se passe dans le ciel règnent sur la terre. Tous les gens. Tous les conflits, on est là, il y a la guerre en ce moment, les amis, il y a la guerre en ce moment qui prend place à l'est de l'Europe. Tous les conflits s'enracinent dans quelque chose de spirituel. Si tu crois que c'est l'histoire de deux bonhommes qui se sont levés un matin et qui se sont dit « faisons-nous la guerre », eh bien tu te trompes. C'est spirituel. Il y a des puissances, il y a des enjeux. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Et nous sommes équipés pour lutter contre les esprits mauvais. Ça fait que quand tu luttes contre les esprits mauvais, tu es renouvelé. Mais nous ne sommes pas équipés pour lutter contre les circonstances. Nous ne sommes pas équipés pour lutter contre le découragement. Nous ne sommes pas équipés pour ça. C'est pour ça qu'on est submergé par le découragement. Quand on laisse notre corps mener le combat, je te donne une semaine avant d'abandonner. Mais dans l'esprit, alors que tu combats, tu es renouvelé dans le combat. Alors que tu combats, ta vision devient de plus en plus claire. Alors que tu t'enracines en Dieu, tu te sens avec beaucoup d'autorité. Ce matin, les amis, je sens beaucoup d'autorité. Beaucoup d'autorité. Ça dépend où c'est que tu es positionné. Stop à la vie chrétienne démoniaque. Et j'aimerais partager un verset avec vous. C'est Jésus qui parle. Il est dit ceci dans Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il n'y a même pas eu d'amen, tellement ce n'est pas notre réalité. Alors on va le relire ensemble. Juste la fin. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient. J'aime la radicalité de Jésus. Pourquoi Jésus peut déclarer ça? Pourquoi est-ce qu'il peut arriver et nous lancer cette vérité en plein visage en étant totalement sûr que c'est la vérité? parce qu'il sait qu'en lui, nous avons accès au service illimité. Le mot abondance ici, on va en parler deux secondes parce que je crois que c'est pas trop clair. Le mot abondance ici, perizos en grec, ça signifie extraordinaire. On aurait pu traduire, je suis venu afin que mes brebis aient une vie extraordinaire. Dis avec moi, extraordinaire. Encore une fois, extraordinaire. Dis à la personne à côté de toi parce qu'il ne le croit pas, toi tu es appelé à avoir une vie extraordinaire. Le mot perizos, ça signifie plus que la norme. Plus que la norme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ce monde a une norme, si le bonheur moyen dans ce monde est fixé au seuil de pauvreté ou à la classe moyenne ou j'en sais rien, nous, la Bible dit, Jésus a dit, tu es appelé à avoir une vie qui est plus que la norme. Nous ne sommes pas comme la norme en étant chrétiens. On n'est pas juste des normaux qui venons à l'église. On fait partie d'une bergerie et dans cette bergerie, notre berger, c'est Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ est Jésus-Christ, il est capable de te donner un fourrage qui te fortifie, qui ne manque jamais, qui te donne tout ce qu'il faut à chaque saison pour ta vie. Abondance extraordinaire, plus que la norme. Le prochain mot, j'aime parce que c'est totalement l'opposé de la petite mentalité chrétienne de base. C'est le mot excès. Ha ! C'est quoi un excès ? C'est quand il y en a déjà beaucoup, mais il y en a tellement qu'il y en a plus que le beaucoup. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en excès. Dernière variation de ce mot. Je suis venu afin que les brebis aient la vie jusqu'à ce qu'elles soient pleine à déborder. Alors oui, parfois il y a des processus. Oui, des fois ça met du temps. Ça monte. Normalement, si tu es chrétien, tu es plus en vie aujourd'hui que hier. Et en fait, tu vas tellement être en vie à la fin que tu meurs même pas. Le mot qui est utilisé lorsqu'il est parlé de vie ici, c'est Zoé. On l'a extrêmement réduit, le mot Zoé, au mot vitalité, au mot vie. Mais le mot Zoé, ça veut dire que la vie prend place dans toutes les sphères de ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un papa en vie. Ça veut dire que tu es une maman en vie. Ça veut dire que ton compte bancaire, il est en vie aussi. Ça veut dire que ta maison est en vie. Ça veut dire que ton église est en vie. Ça veut dire que ton corps est en vie. Et oui, parce que nous, on est souvent des croyants pas spirituels, donc on est limité par notre corps, mais on spiritualise notre corps. Donc on dit, ah mais oui, mais Zoé, ok Zoé c'est beaucoup, mais comme moi j'y crois pas, donc c'est pas pour ma vie, c'est pas pour mes finances, c'est pas pour ci, c'est pour la vie éternelle, alléluia. Oui, c'est pour la vie éternelle, mais pas que. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Alors comment se fait-il que parfois il y a une autre réalité? Eh bien Jésus le dit là, dans le texte qu'on a lu. Le voleur vient, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur a le droit de venir où ça? Dans la bergerie. Et là, nous souvent on est troublés avec ça. Parce qu'on se dit, ah, je suis dans la bergerie, donc ça va. Mais Jésus n'a pas dit qu'il empêchait le voleur de rentrer. Il a dit que le voleur vient pour, dans la bergerie, pour égorger, dérober et détruire, mais que toi, tu peux avoir accès à la source de vie en abondance dans la bergerie. Mon frère, ma sœur, je veux casser cette... Vous savez, la spiritualité, c'est pas être simpliste. Il faut être comme des enfants, mais Paul dit aussi qu'on doit être mature. Tu es chrétien, mais ça ne veut pas dire que le diable n'a plus le droit de t'attaquer. Il y a même des gens qui croient que parce qu'on est chrétien, le diable ne peut pas venir dans cette église. Alors trouvez-moi le verset. La Bible dit dans Job que Satan se présente même devant le trône de Dieu. Alors, je crois que Dieu est un peu plus haut que nous quand même. Et le problème, c'est que nous, on confond bergerie avec autorité que Dieu nous donne pour vivre l'abondance. Je peux être dans la bergerie, mais le voleur peut continuer à m'attaquer. Et si je ne comprends pas que le voleur peut continuer à m'attaquer, je vais me laisser dérober, égorger et détruire dans la bergerie et je vais dire au Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pourtant dans la bergerie, Seigneur. Mais le voleur vient quand même. Le voleur ici, alors certains vont dire, mais ça c'est le diable. Ce n'est pas que le diable. La Bible dit par exemple dans la parole de Dieu qu'il y a un esprit dans le monde spirituel qui s'appelle le dévoreur. Malachie chapitre 3, je menacerai le dévoreur. C'est quoi ça? La Bible nous dit aussi que Dieu est capable de racheter les années que la sauterelle a dévorées. Est-ce que vous avez déjà vu une sauterelle manger une année? Il faut une grosse sauterelle, hein? Puis une année, tu la manges comment? Explique-moi. Parce que c'est spirituel. C'est spirituel. On parle d'esprit mauvais dans les lieux célestes. C'est spirituel. Alors bien sûr, si toi tu es limité par ton corps, tu me regardes ce matin et tu dis, mais de quoi il parle? Parce que tu crois à peine que le diable existe. Si tu ne comprends pas qu'on est dans une bergerie, parce que Jésus nous y a fait rentrer, mais que l'ennemi peut quand même continuer à nous attaquer, tu vas te faire dépouiller toute ta vie. Le voleur, lorsqu'il est dit ici qu'il vient pour dérober, le mot dérober, c'est le mot dérober. Simple à comprendre. Ça veut dire quoi dérober? Ça veut dire que tu as des choses et on te les prend. On ne parle même pas d'en avoir plus. On parle qu'il est capable de te voler ce que tu as déjà. Il vient pour dérober. Ça me fait penser à une histoire. La Bible dit qu'au temps de Gédéon, dans Juges chapitre 6, il est dit ceci. Gédéon battait le froment pour le rentrer à l'abri, mais il le faisait vite. Pourquoi? Parce que les Madianites, à chaque saison de la récolte, ils venaient et ils pillaient. D'ailleurs, la Bible dit qu'ils venaient comme des sauterelles et qu'ils pillaient tout. Alors on peut lire cette histoire et on voit juste là une guerre physique, mais il y a plein de principes spirituels dans ce texte. D'ailleurs, ce texte est plus spirituel que physique parce que Dieu va dire à Gédéon, pour que le dévoreur s'arrête, pour que le pillage se termine, la première chose à faire n'est pas d'aller lui régler son compte, la première chose à faire, c'est d'aller abattre un poteau sacré dans ta maison. Pourquoi? Parce que Gédéon était membre du peuple de Dieu. Mais ils avaient laissé un poteau sacré prendre place qui donnait un droit à l'ennemi de les attaquer. Frères et sœurs, nous pouvons être dans la bergerie, mais on peut aussi donner des droits à l'ennemi de nous attaquer. Et si nous avons notre petit christianisme religieux traditionnel, on va se faire massacrer. La mesure de ma compréhension de la spiritualité est définie par ma vie d'intercession. Si tu n'intercèdes pas, c'est que tu n'as pas compris qu'on était dans un monde qui est spirituel. Les intercesseurs ne sont pas toujours les plus forts, mais ils ont au moins compris ça. Donc, le voleur vient pour dérober. Deuxièmement, pour égorger. Le mot égorger ici, c'est le mot tizia, ça signifie un sacrifice qui conduit à la mort. Ça signifie offrir en sacrifice. En d'autres mots, ça veut dire quoi? Toi, en tant que croyant, tu es appelé à faire des sacrifices à Dieu. Mais ce n'est pas tes sacrifices qui sont faits à Dieu, mais l'ennemi vient et c'est toi qui sacrifies. Tu as des sacrifices qui ne portent pas de fruits en fait. Tu as des sacrifices qui sont stériles. Tu as l'impression que tu fais des sacrifices, mais en fait ce n'est pas pour Dieu, c'est l'ennemi qui t'arrache des choses. Et tu as une vie misérable et tu te dis, mais Seigneur, mais comment ça se fait avec tout ce que je sacrifie pour toi? Tu ne sacrifies rien, c'est l'ennemi qui te dépouille. Chaque sacrifice dans la parole de Dieu, il faut qu'on soit très clair. Chaque sacrifice dans la parole de Dieu, demandé par Dieu, ouvre toujours quelque chose. Toujours. Une saison, une victoire, une restitution, toujours. Un sacrifice stérile n'existe pas. Et là, dans ce texte, on voit qu'une des choses que l'ennemi fait, c'est qu'il vient et plutôt que nos sacrifices portent du fruit, il en vole la puissance. Il y a comme une mort, au lieu d'aller de gloire en gloire, de vie en vie, de progrès en progrès, il y a comme une mort qui frappe et ça s'atténue avec le temps. Le mot détruire, apolimie, signifie faire perdre, ruiner. La pensée est d'avoir un sac qui est percé. Je ne sais pas si ça vous parle tout ça, mais à un moment donné, il faut qu'on reprenne nos positions spirituelles. Le diable L'esprit, le dévoreur vient, il rentre, il est un voleur, il rentre dans la bergerie. Qu'est-ce qu'il fait? Il te dépouille, ta vie ressemble à un sac percé. Sac percé, ça veut dire sac percé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à garder. Ça parle de la provision, ça parle des finances, ça parle de plein de domaines très concrets de notre vie. Et il vient et il dévore, il prend. Et pourtant, Jésus a dit dans le même texte, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » En abondance, rappelez-vous, en excès, en surplus. Pourquoi? Et je priais, je dis, « Seigneur, mais pourquoi ?» Parce que je crois, et je vais être très franc avec vous, je crois que beaucoup d'entre nous, nous sommes la cible du dévoreur. Parce que quand on regarde nos vies, on voit du pillage dans nos vies, dans nos familles, dans notre vie spirituelle. On voit des sacrifices qui n'ont rien porté, mais au contraire qui ont volé ma vie. On voit toute la dimension du sac percé, rien. On ne construit rien, chaque étage construit est appelé à se détruire comme une sorte de surplace. Mais comment est-ce possible quand Jésus m'a dit qu'il me promettait la vie en abondance? Mais la seule et unique solution, c'est de comprendre que même si je suis dans la bergerie, l'ennemi m'attaque. Et si je ne comprends pas ça, je lui donne le droit de continuer à le faire. Et plus je suis ignorant, plus l'ennemi prend de l'autorité sur ma vie. La porte, et je priais vraiment depuis très très tôt ce matin, tout hier, toute la journée. Dis, Seigneur, quelle est la porte? Comment ça se fait? Comment ça marche? Comment est-ce qu'il fait pour rentrer? Comment il fait pour qu'on puisse le voir et qu'on puisse le dégager? Qu'on puisse le voir et qu'on puisse dire stop quand il s'approche de nous. Quelle est la porte? Qu'est-ce qui prend place? Et simplement, le Seigneur m'a dit clairement que le dévoreur rentre quand on ne croit pas que nous sommes appelés à avoir la vie en abondance. C'est une question de croyance. Ce que tu crois définit qui tu es. Plus que ça, toutes les révélations que Dieu va te donner s'enracinent dans ce que tu crois. Une révélation, c'est un étage supplémentaire, mais il s'appuie sur quoi? Sur ce que tu crois. C'est parce que tu crois en Dieu que Dieu peut te parler. Parce que Dieu parle à tout le monde. Mais pourquoi toi tu l'entends? Parce que tu crois en lui. Et pourquoi les gens du dehors ne l'entendent pas? Parce qu'ils ne croient pas en lui. C'est pas compliqué. Donc ce que tu crois va permettre à Dieu de rajouter, de t'en donner plus. Mais l'ennemi aussi regarde ce que tu crois. Et si tu crois que ta vie est faite pour être dépouillée, que c'est normal d'être un pauvre petit chrétien, que tu es comme Gédéon, le pauvre, le plus petit de la plus petite tribu, de la plus petite famille, de la plus pauvre, si tu acceptes ça et qu'en plus entre nous on se le dit et que ça devient une vertu dans l'église, c'est une vertu. Ah, moi je suis misérable, oui moi aussi frère, mais c'est le désert, on va passer au travers. Le désert peut être une saison dans ta vie, le désert n'est pas ta vie. Je répète, le désert c'est une saison peut-être, mais ce n'est pas ta vie. Dis à la personne à côté de toi, tu n'es pas fait pour le désert. Tu peux lui répondre, je sais, je ne suis pas un chameau. Et nous dans l'église, on croit qu'on est des chameaux. On est fait pour le désert. Et on est là, mais c'est fou, hein. Et on est là, on se dit, ah, oh, oh oui, regarde, j'ai tout perdu pour Christ, alléluia. Ah bon? Je suis pauvre, mais je tiens bon. Ah bon? Ma vie, c'est que galère sur galère, mais Dieu est avec moi, amen. C'est pas ce qu'il y a écrit là. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Donc c'est la première étape, elles ont la vie. Déjà, gloire à Dieu pour la vie, mais c'est pas suffisant. Je veux la vie, mais je veux l'équipement qui va avec. Donc, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, mais qu'elle l'ait en abondance. Et tout est une question de croyance. Et l'ennemi vient, le dévoreur vient, il passe, il regarde dans nos vies, et il dit, ah tiens, lui, il croit pas. Lui, il croit pas. Là, ça croit pas. Je le dépouille. Je l'égorge. Je le détruis. Et quand il n'y a plus rien à manger, j'attaque ses enfants, j'attaque son mari, j'attaque sa maison, j'attaque les grands-parents, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Et le drame, c'est que nous avons toutes les armes entre les mains, parce que la Bible dit qu'on est des soldats de Dieu, mais on ne les utilise pas parce qu'on n'en a pas conscience. Ce matin, dans le nom de Jésus, il est temps de dire stop aux dévoreurs. Tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Il faut que toi, tu pries pour toi. Il faut que toi, tu le reçoives. Il faut que tu sois convaincu spirituellement que tu es fait pour l'abondance. Tu es fait pour l'abondance. Tu es fait pour l'abondance. Ce n'est pas parce qu'Israël a passé 40 ans dans le désert que tu es fait pour 40 ans de désert. Les amis, les 40 ans de désert, ce n'est pas la vie chrétienne normale. C'est le jugement de Dieu. Ce n'est pas la vie chrétienne normale. Je veux savoir en quoi je m'enracine. Je m'enracine en qui là? Je m'enracine en celui qui dit qu'il est ma guérison. Il est mon étendard. Il combat pour moi. Il est ma guérison. Il est le Dieu qui pourvoit. Si c'est celui-là, mon Dieu, alors j'aurai les fruits de son nom dans ma vie. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va pourvoir à mes besoins. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me guérir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va combattre pour moi. Vous savez, on lit l'étendard. Dieu, mon étendard. Et nous, on dit, ah, mais ça, c'est une belle image. Ah bon, c'est une image? On a tous un étendard au-dessus de la tête. C'est quoi ton étendard? Dans le monde spirituel, quand tu es sur le champ de bataille et que l'ennemi parcourt le champ de bataille, qu'est-ce qu'il voit? Quel est ton étendard? La Suisse? Je suis neutre. Tu vas te faire ravager si tu es neutre. Quel est mon étendard? Et ce matin, je prie dans le nom de Jésus que le dévoreur stoppe. Stop, 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 stop. Et ça commence par une décision. Je suis fait pour l'abondance, Seigneur. Je suis venu afin d'avoir la vie et la vie en abondance. On va fermer nos yeux quelques instants. Père, je prie dans le nom de Jésus maintenant même qu'il y ait une irritation spirituelle dans le cœur de plusieurs, un ça suffit spirituel, une décision. Je prie pour que la réalité de ta parole, pas ce que je dis, Seigneur, mais la réalité de ta parole, la réalité de l'abondance de ta parole, que chacun d'entre eux comprenne que la réalité de leur vie, à la lumière de l'abondance que tu nous promets, doivent être alignées. Si ce n'est pas le cas, Père, je prie qu'il y ait une décision qui soit prise maintenant même dans le nom de Jésus. Maintenant même dans le nom de Jésus. Et ne croyez pas que c'est si facile que ça. C'est des décisions spirituelles et c'est profond. Plusieurs d'entre nous, le dévoreur est installé à la maison. Il est même dans le canapé tellement il est bien installé. Et ça va demander des décisions fortes au niveau spirituel pour le faire partir, pour le faire bouger. Dans le nom de Jésus, koma santi karababa rebebe, sodoloro barababa kiririarabababare. On va faire une déclaration ensemble ce matin. On va dire tous ensemble, je suis fait pour avoir la vie en abondance. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis fait pour avoir la vie en abondance. Encore une fois, je suis fait pour avoir la vie en abondance. Ok, maintenant on va se lever s'il vous plaît. Et tu vas regarder le dévoreur et tu vas lui dire ça à lui. Tu ne le dis pas à moi, moi je le sais, tu n'as pas besoin de me convaincre à moi. C'est dans les mondes spirituels que tu as besoin de dire les choses. Tu vas dire à ton ennemi, je suis fait pour avoir la vie en abondance. Quelqu'un qui y croit, qui va le dire ce matin. Je suis fait pour avoir la vie en abondance. Maintenant, tu vas regarder à des domaines de ta vie. Tu vas regarder à ta santé et tu vas déclarer, je suis fait pour avoir la vie en abondance. Tu vas regarder à tes finances et tu vas dire, je suis fait pour avoir la vie en abondance. Tu vas regarder à tous tes sacrifices pour Dieu que l'ennemi a volé. Tu vas dire, je suis fait pour avoir la vie en abondance. Tu vas regarder à la vie de tes enfants, de ton mari, de ta maison, qu'importe, où l'ennemi est venu ravager, tu vas dire, je suis fait pour avoir la vie en abondance. Je suis fait pour avoir la vie en abondance dans le nom de Jésus. Et s'il y a quelqu'un qui croit, est-ce que tu peux dire amen et acclamer le roi des rois dans ce lieu? Vous pouvez reprendre place quelques instants. Tu dois croire ce que la Bible dit. La seule et unique vérité, c'est ce que Dieu dit. Tu dois laisser la vérité être plus grande que tes certitudes. Tu ne dois jamais rabaisser la parole de Dieu à tes circonstances. Ce n'est pas parce que tu as eu une défaite que tu dois expliquer bibliquement pourquoi ta défaite est bonne. C'est la la parole qui doit régner. Si Dieu dit que je suis fait pour être dans l'abondance, voici ma réalité. Je m'appelle Mathieu Gatté et je suis fait pour l'abondance. Tout simplement. Dis ton nom à la personne à côté de toi et tu lui dis, je suis fait pour ça. Si tu crois ça, les amis, si tu crois ça, tu fermes, tu es en train d'abattre le poteau. Tu abats le poteau sacré qui donne le droit aux dévoreurs de rentrer dévorer ta vie. Juste le fait de le croire et de le savoir, ça ferme la porte. Maintenant que tu as fermé la porte, il faut aussi commencer à vivre et à manifester cette vie-là. Comment ça marche? Commence à prier comme quelqu'un qui vit dans l'abondance. Là, on ferme une porte, mais après, il faut commencer à vivre comme quand même. Quelqu'un qui vit dans l'abondance, il n'est pas là à se dire, « Oh Seigneur, j'aimerais que ma vie elle soit juste un petit peu mieux. » Ça, ce n'est pas une prière de quelqu'un qui vit dans l'abondance. Gédéon, sa prière, ce n'est pas, « Seigneur, on aimerait que le dévoreur ne vienne pas tous les ans, mais tous les 5 ans. » Ce serait tellement mieux. Oui, quand tu vis à moins 10, revenir à moins 2, c'est toujours mieux. Mais le mieux, c'est 20 sur 20. On est d'accord avec ça? Que cette réalité soit votre réalité, les amis. Je prie que ce soit imprégné, gravé, spirituellement, scellé dans votre être spirituel. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, très rapidement, c'est stop à l'esprit de Mammon. Stop à l'esprit de Mammon. Mammon est la seule chose dans la parole à qui Dieu, à qui Christ va donner une valeur spirituelle. Paul lui-même dit, il n'existe aucun idole, les idoles n'existent pas, il existe seulement des idolâtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux donner une valeur à n'importe quoi. Tu peux faire de ce téléphone ton idole. Si tu crois que le haut grand Google, oh dit Siri, je suis un idolâtre de Siri. Pourtant Siri n'est pas puissant. D'ailleurs il me parle. Comprenez une chose, c'est qu'il n'y a pas d'idolâtre, mais pourtant Jésus a dit, Mammon, lui, a de la puissance. C'est la seule chose dans la parole de Dieu qui vient comme une puissance qui concurrence Dieu. Il est dit ceci dans Matthieu 6, 24, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Le mot servir ici, douléo en grec, a donné le mot doulos. Il y a deux mots pour servir dans la parole de Dieu. Il y a diakoneo et doulos. Doulos, c'est la dimension de l'esclave, celui qui est prêt à souffrir pour servir. Doulos, douleur en français. Et là, Jésus dit, on ne peut être l'esclave que d'un seul maître. Ça veut dire que déjà dans ton rapport à Mammon, tu ne le sers pas, tu en es esclave. Il ne cherche pas des serviteurs, il ne cherche pas des accompagnateurs. Lorsque Mammon entre dans la vie de quelqu'un, directement, il en fait un esclave. Directement. Il n'y a pas de stade, il n'y a pas d'étape. C'est soit tu es libre, soit tu es esclave. Le mot servir, c'est le mot se soumettre. Lorsque Jésus dit, lorsqu'il parle justement du processus, il dirait il va s'attacher à l'un ou s'attacher ou mépriser l'autre. Et le mot s'attacher, c'est ma capacité de grandir dans mon amour. C'est que l'attachement, c'est de plus en plus fort. C'est comme j'aime, mais parce que je m'attache demain, j'aime plus, après-demain, j'aime plus. Et au final, à un moment donné, on ne peut plus nous séparer. C'est ça, s'attacher. Et Jésus dit, attention, parce que tu peux commencer à t'attacher à Mammon, comme tu peux t'attacher à Christ. Mais à un moment donné, le processus va être aussi fort que tu ne pourras plus t'en détacher. En fait, même une des manières de savoir l'influence de cet esprit dans ta vie, c'est est-ce que tu as du mal à t'attacher à Christ? Est-ce que tu arrives à t'attacher à Christ? Ou est-ce que les problèmes matériels m'empêchent de m'attacher à lui? Le mot s'attacher, ensuite il utilise un autre mot, c'est le mot mépriser. Mépriser, c'est ne pas accorder de valeur, ne pas accorder d'honneur. C'est annuler la puissance cachée dans ce que l'on donne. Lorsque tu es pris par Mammon, tu n'arrives pas à t'attacher à Christ, tu n'arrives pas à donner à Christ, tu n'as pas cette confiance en Christ. Le don lui-même perd sa valeur. Et le don lui-même perd sa puissance. Tu fais ton offrande, ça t'a déjà, on t'a coupé un bras pour que tu la fasses, mais en plus ton offrande elle est stérile. La puissance du don est éteinte par Mammon. On voit une image de Mammon dans l'Ancien Testament. l'histoire du veau d'or. Et je priais pour ça, j'ai dit, Seigneur, mais comment on fait, comment on fait pour savoir si vraiment ben, je suis un doulos de maman, si c'est lui qui a pris la place. On est tous concernés par les besoins matériels, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pas concerné? Bon, ça va déjà, on est tous des êtres humains. C'est la réalité. Mais est-ce que les besoins matériels dans ma vie ont une puissance sur moi? C'est ça la vraie question. Et je dis, Seigneur, d'accord, je veux pas servir de maître, parce que si je le sers, je vais te mépriser toi. À l'inverse, si je le sers lui, je mépriserai l'autre. Mais je veux être sûr, Seigneur, comment on fait? Et Dieu m'a ramené clairement ce passage sur le veau d'or. Et vous connaissez l'histoire, mais c'est juste fou cette histoire. Parce que Israël sort d'Égypte. On a les 10 plaies d'Égypte. Combien croient que quand tu as vécu les 10 plaies d'Égypte, tu sais que Dieu existe? Non? Bon, quand même, c'est pas mal, le fleuve changé en sang, les poux, enfin tout ça. La mort des premiers-nés. Et puis là, tu sors d'Égypte et à partir du moment, enfin, tu commences à sortir d'Égypte, à partir du moment où tu te mets en mouvement, Dieu se matérialise littéralement. Tu as une colonne de nuée qui est là la journée, une colonne de feu qui est là la nuit. Donc là, tu dois croire que tu as vu Dieu quand même. On est d'accord avec ça. Maintenant, regardez ça. Moïse monte sur la montagne, il passe 40 jours avec Dieu. Et la Bible dit ceci, « Voyant qu'il tardait à redescendre, le peuple se mit à murmurer. » Bon, vous ne savez pas ce que c'est le concept de murmure, certainement, mais c'est quand tu n'es pas content que ça traîne, tu vois. Bon, ça n'arrive pas dans cette église, mais des fois ça peut arriver, je vous assure. Le peuple s'est mis à murmurer. C'est trop long, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et la Bible dit qu'Aaron va faire un truc de dingue. « Amenez-moi l'or. » Je fais un veau en or, et lorsqu'il a pris le veau, il l'a présenté au peuple, et il a dit au peuple, voici l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et tout le monde a cru à ça? Eh ben ouais. Alors il y a deux trucs, soit c'était des stupides profonds, tout le peuple d'Israël, c'est-à-dire un peu plus d'un million, même 3 millions de personnes environ, ou alors il y avait un aveuglement spirituel profond. Parce qu'ils avaient vu Dieu, ils avaient vu la colonne. Comment peut-on comparer une statue à la colonne de nuée qui touche le ciel et la terre? Comment peut-on comparer le veau d'or avec le Dieu qui, lorsqu'il descend sur la montagne est remplie de nuées, les éclairs, le tonnerre et la voix de Dieu qui résonne? Comment un homme spirituel comme Aaron, qui est le sacrificateur de Dieu, un homme spirituel, Aaron, c'est pas, vous savez, il a vécu plus d'expérience spirituelle à Aaron que vous et moi dans toute notre vie. Comment est-ce qu'il peut arriver à une telle bêtise? Mais surtout, comment tout le peuple peut dire, ah oui, voici l'Éternel notre Dieu? À moins qu'il soit totalement aveuglé et conditionné, il n'y a pas d'autre moyen. Mais c'est exactement ça. Mammon, c'est une puissance qui t'aveugle. Il est un veau d'or, mais tu ne le vois pas. Tu crois que tu sers Dieu, mais en fait, c'est lui qui te contrôle. Tu crois que tu es libre, mais lui, il sait très bien que tes finances, ton portefeuille, ton matériel, tout te possède. Et je ne parle pas d'être riche. Tu peux être riche et libre de l'argent. Tu peux être pauvre et possédé. Et l'inverse aussi. Mais on voit dans ce texte qu'il y a quelque chose qui prend place. Ils n'ont pas vu. Donc là, on a des principes spirituels que Dieu nous donne. Mammon est une puissance qui se cache. Il ne vient pas à toi en te disant « Me voici, c'est Mammon ». Quand il attaque une vie, c'est subtil. Pourquoi je le dis? Parce que là, je sens vos esprits, vous me dites tous, « Oh mais non, mais moi, c'est mon problème. Ah mais moi, c'était leur problème à eux, à 3 millions de personnes, mais nous, c'est pas notre problème. » C'est justement quand tu dis que c'est pas ton problème que l'ennemi s'amuse avec toi. Mammon, c'est une puissance qui se cache. Plus que ça, voici l'Éternel, est une puissance qui prend le visage de Dieu, qui te fait croire que c'est Dieu. C'est pour ça que tu l'acceptes dans ta vie. C'est pour ça qu'Israël n'a pas réagi. N'importe quel, même les enfants dans nos clubs des enfants, si on fait une statue en or, ils vont nous dire, mais vous avez craqué. Non? Mais oui, ils ont assez de culture biblique, ils vont dire, il y a un problème, papa, t'as un problème. Mais eux, qu'est-ce qui s'est passé? Cette puissance les a aveuglés, ils ne voyaient plus, et cette puissance, elle est venue, elle a voilé les yeux, ils ont cru que c'était Dieu, mais plus que ça, elle a capté toutes les finances. Parce que la Bible dit, lorsque Moïse va redescendre de la montagne, il va faire détruire le veau d'or, il va y avoir une malédiction qui va frapper Israël, mais juste après, Dieu va dire qu'on amène des offrandes pour la construction du tabernacle. Mais tous ceux qui avaient donné à Mammon, ils n'avaient plus rien. Mammon avait tout pris. Quand tu donnes à Mammon, tu n'as plus assez pour donner à Dieu. Ça, c'est un principe. Si tu n'as jamais assez pour donner à Dieu, c'est que Mammon te prend tout. Je sais que vous, là, à ce niveau-là du message, vous ne m'aimez pas du tout. Mais ce n'est pas grave, on va continuer. Jusqu'à ce que vous en ayez assez. Mais pas de moi, de vous-même. De l'ennemi qui s'amuse avec nous. Et qu'on puisse ôter le voile. Je prie que le voile soit ôté. Pour qu'on voit littéralement notre vie. La vie, ce n'est pas des émotions. Ce n'est pas un jour ça va, un jour ça va pas. Ce n'est pas éventuellement, si quelqu'un prie pour moi, peut-être que dans la grande roue de la fortune, de la prière, ça va tomber sur la case réponse. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est je vois, je discerne, je combats, je dis oui, je dis stop, je dis non, je manifeste de l'autorité, j'empêche l'ennemi de prendre du territoire. L'ennemi, la Bible dit que le royaume de Satan, c'est le royaume de ténèbres. Les ténèbres, ça n'existe pas là où il y a la lumière. C'est pas compliqué, ça n'existe pas. Les ténèbres n'existent que si tu éteins la lumière. Donc tout est connecté à nous. En tant qu'enfant de Dieu, à la compréhension qu'on a, il s'enracine, il se voile. Tu crois que c'est vraiment Dieu? Maintenant, j'ai posé cette question au Seigneur. Je dis, Seigneur, mais comment se fait-il qu'on ne le discerne pas? Et surtout, comment est-ce qu'il rentre? Comment Mammon arrive à rentrer dans nos vies? Mais il y a deux choses, très simples. Vous savez, tout ce qui se passe dans le spirituel s'enracine pas dans des portes que nous ouvrons. Parce qu'on est sauvé. On est en Christ, l'ennemi ne devrait pas avoir le droit de nous attaquer. S'il le fait, c'est qu'on ouvre des portes. Et qu'est-ce qu'il est dit dans ce texte? Voyant que Moïse tardait, le peuple se mit à murmurer. Il y a deux choses. Première chose que le diable adore, que Mammon adore dans ta vie, c'est l'impatience. L'impatience qui te pousse à croire que tu sais mieux que Dieu. L'impatience qui te pousse à croire que si Dieu avait été toi, j'aurais fait les choses différemment. L'impatience de croire que Dieu oublie ta vie parfois. Que Dieu ne te construit pas. Vous savez que tout ce que vous remettez entre les mains de Dieu, bon ou mauvais, ça vous construit. Je vais répéter ça parce qu'il y en a qui ne sont pas sûrs. Même les attaques de l'ennemi, si tu les remets entre les mains de Dieu, lorsque l'ennemi t'attaque, il te construit. Pas il te détruit, il te construit. L'impatience, mais c'est un sentiment la patience. La vraie question est-ce que ma vie devant Dieu est impatiente? Est-ce que j'ai cette chose en moi qui fait que je refuse la manière dont Dieu travaille, je refuse tous ces processus, c'est trop long, Moïse 40 jours sur la montagne, et moi je suis en bas, je suis dans le désert, et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la prochaine étape? Ok, merci pour la sortie d'Égypte, mais je ne veux pas en rester là. Et il y a une impatience qui est là. Et la deuxième chose, le murmure. Pourquoi Dieu est aussi radical avec le murmure? Souvent on croit que Dieu est radical avec le murmure parce qu'on pense que Dieu est offensé quand tu murmures contre lui. Dieu lit dans ton cœur parfaitement. Ce n'est pas ce qui sort de ta bouche qui offense Dieu, c'est ce qu'il y a au fond de ton cœur. C'est ce qu'il y a au fond de ton cœur. La Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque le murmure sort de ta bouche, ça fait longtemps que le murmure a contaminé ton cœur. Tu regardes ton cœur. Mais comprenez une chose, le murmure, Dieu n'est pas à cheval parce qu'il a un problème d'amour propre. Dieu n'est pas, vous savez, des fois nous on entend quelque chose de pas agréable contre nous, ça nous blesse. Ça vous arrive à vous des fois, peut-être ça vous est arrivé. Dieu ne se sent pas blessé. Dieu n'a pas un problème d'amour propre. Dieu ne va pas aller faire une relation d'aide après ça. Dieu ne va pas demander qu'on lui impose les mains. Parce que, oh, il m'a blessé, je dois pardonner. Ce n'est pas une question de pardon. Vous savez pourquoi Dieu est à cheval sur le murmure ? Pas par rapport à lui, mais parce qu'il sait que le murmure ouvre des portes spirituelles dans ta vie. Quand tu murmures, tu ouvres des portes spirituelles dans ta vie. L'ennemi est attiré par le murmure. Il y a des choses qui repoussent l'ennemi. Par exemple, l'adoration, il n'aime pas ça. Le désir de se consacrer à Dieu, il ne supporte pas ça. Mais il y a des choses qui l'attirent. Et dans le monde spirituel, le murmure, ça attire l'ennemi. Et dans le contexte de cette histoire qu'on a lue ensemble, dans le contexte de Mammon, Mammon est un des esprits les plus attirés par le murmure. D'ailleurs, les deux vont ensemble. L'impatience entraîne le murmure. Et c'est des états de cœur, de choses que je laisse rentrer. Je termine par là et on va prier maintenant. Parce que je pense qu'il faut qu'on puisse vivre un temps de liberté dans ce lieu.